RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La France déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Zora,
on s'en fout pas.
Et Charles.
On ne s'en fout pas.
Visite de 48 heures pour le président chinois. Alors au programme, cérémonie protocolaire en grande pompe aux Invalides. Banquet à l'Elysée, ça c'est aujourd'hui. Demain, direction les Pyrénées pour Emmanuel Macron et Xi Jinping à l'occasion d'une escapade plus personnelle entre les deux hommes accompagnés de leur épouse. Alors évidemment, la guerre en Ukraine et la question des droits de l'homme seront abordées. Alors que la France, on le rappelle, dénonce le génocide du peuple ouïghour. Pourquoi on s'en fout pas, Bruno?
Tu viens de le dire, déjà, les Ouïghours, il y a aussi ce qui se passe au Tibet. Mais bon, après, c'est dans la galerie de portraits, Macron s'est rend la main au dictateur. Il y avait l'Iran, il y avait l'Arabie Saoudite. Il manquait, je pense qu'il y avait Poutine aussi, mais il manquait juste.
On ne devrait pas le recevoir.
De toute façon, t'es obligé. Le mec, il nous détient, je sais pas, il détient combien de pourcents de la dette française. Donc, à un moment donné, le pays lui appartient quasiment. Enfin, la plupart des gens achètent sur Amazon.
Ça appartient à la Chine.
Ah, je pense qu'à mon avis, les gens se trouvent AliExpress très bien. Donc, je pense que la Chine,
J'ai les chiffres, hein. En 2023, notre pays a importé pour 72 milliards de produits made in China. Électronique, voiture, en revanche, elle a exporté pour 25 milliards. Donc, quand même, on vend aux Chinois, mais on achète plus qu'on ne vend, bien sûr.
Made in China, oui. Charles.
Non, moi je pense qu'on doit montrer du respect parce que c'est un grand partenaire et qu'il faut pas les. Mais c'est vrai qu'il faut pas les vexer et en même temps on doit montrer ce qu'on a dans le bide.
Et en disant quoi?
La France c'est quand même le pays qui défend les opprimés dans le monde. Donc typiquement un pays qui a des camps de concentration. Puisque
non.
C'est ça les Ouïghours. Bah
c'est
si,
pas un
je suis
pays
désolé.
Qui défend les opprimés dans le monde.
Si la France c'est. Historiquement, on est quand même censé être un tout petit peu le pays qui a, parmi les premiers, édicté des déclarations de droits.
Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron?
Il y avait une époque où la voix de la France portait. Non, mais on doit gueuler. On doit gueuler. On doit gueuler sur la question des Ouïghours. On doit gueuler sur la question des droits des citoyens. Je veux dire, c'est un pays dans lequel, sous couvert de Covid, ils ont quand même foutu tout leur peuple en tôle pendant des mois et des mois. Et ça continue. Oui, mais ils ont fait
d'ailleurs,
bien pire.
Certains s'inspirent du modèle chinois.
Ils ont fait bien pire que nous.
Et moi, qui citaient les
j'ai critiqué le fait que nous nous inspirions d'une dictature pour nos propres mesures Covid, mais ça dérangeait pays. On n'avait pas le droit de toute façon de critiquer les mesures Covid.
Est-ce qu'on peut se passer de la deuxième puissance
économique
du monde ? Non, mais c'est pas
parce qu'on ne peut pas s'en passer qu'on doit s'aplatir. Donc moi, je pense que la France gagnerait. Et je suis désolé, avant, c'était une question qui était tout le temps posée par les journalistes. Souvenez-vous, quand le président français et le président d'un autre pays, en général une dictature, puisqu'il y a plus de dictature que de démocratie dans le monde, en général d'une dictature, faisait une conférence de presse, il y avait toujours un journaliste pour dire « Avez-vous évoqué la question des droits de l'homme ?» Et souvent, le président français disait « Oui, oui », et le président étranger disait « Non, non ». Bon, mais c'est souvent comme ça. Donc sous couvert de réel politique, on a abandonner ce qui fait notre singularité.
Je note que avec 1 million de Ouïghours en camp de détention, en camp d'internement, dans des conditions immondes, 110 journalistes emprisonnés, des Ouïghours, ils sont 10 millions, pour le reste, c'est quasiment l'apartheid organisé. Eh ben, la Sorbonne ne sera pas occupée aujourd'hui. Nos militants pro-palestiniens en ont rien à cirer. Et en 2022, LFI a voté contre la reconnaissance de ce que vivent les Ouïghours à l'Assemblée. Donc il y a un moment donné, il va falloir quand même s'interroger sur la question des droits de l'homme et la graduation que chacun en a.
À
voilà,
mais
exactement.
Les filles, Zora, ils ont un problème avec la Chine, à mon avis, et avec ce régime qui est suspect. Moi, je considère que c'est suspect. J'ai entendu Rima Hassan sur la question. Je comprends pas pourquoi elle est tout à coup aussi timorée sur la question des Ouïghours alors qu'elle est sabre au clair sur la question de Gaza. Moi, je trouve ça suspect. Je pense que les liens sont suspects.
D'ailleurs, il y avait la fondatrice d'un institut européen sur les Ouïghours hier sur BFM TV qui s'est fendue d'un tweet assassin à l'égard de Rima Hassan en lui disant que c'était scandaleux, qu'elle était très en colère de voir comment Rima Hassan avait balayé d'un revers de main quasiment ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine. Donc effectivement, moi je normal, et il a raison Charles, c'est que d'habitude d'habitude, quand un chef d'État arrive en France et que dans son pays...
Malheureusement, je suis désolé, mais tout le monde se fiche
totalement
des Ouïghours en France.
Hein. Bah
non, c'est terrible ce que je viens de dire.
Reconnaissons justement...
Pas de juifs, pas d'infos.
Raphaël Glucksmann.
Exactement. Reconnaissons au jeune Glucksmann une certaine constance sur la question des Ouïghours, puisqu'il a beaucoup porté cette
chose
au Parlement européen.
C'est le seul.
Il y a des questions à poser sur TikTok aussi. Tu vois, il y avait un reportage très amusant chez nos confrères de TF1 sur tous les petits drapeaux qui étaient agités près de l'Arc de Triomphe pour dire bienvenue au président chinois. Puis il y a un journaliste de TF1.
Il y a des drapeaux chinois partout.
Un journaliste de TF1 qui s'approche près d'une dame en lui disant « Ah, pourquoi vous êtes déjà là ? Pourquoi c'est important la visite du président chinois ?» Elle commence à répondre. Et puis là, tu as un soi-disant touriste qui était juste derrière qui vient, qui dit « Non, non, t'arrêtes de parler. » Donc, tu avais les agents chinois qui étaient là surveillés bien
en
précisément.
France, chez nous.
Ah bah oui. Il est venu lui dire « Non, non, vous arrêtez de parler. »
C'est magnifique.
Il y a 110 journalistes en Chine incarcérés.
Mais c'est tenu, Bruno.
L'ordre et la discipline, c'est ce qui manque à la France, monsieur.
Oui, en France.
La Chine va nous apprendre. C'est sûr que lui, il va être surpris. Il va débarquer dans un pays où les lycéens manifestent pour Gaza, où personne travaille cette semaine parce qu'il y a des jours fériés. Et c'est sûr que ça doit le faire marrer.
Donc lui, il est tranquille à faire ce qu'il veut là-bas. Bon,
allez,
super.
Vas-y Anaïs.
Les GG Soraya, la femme de Kenji Girac, sort du silence et elle nie tout chantage au suicide de la part du chanteur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout.
On s'en fout.
Zora.
On s'en fout.
Allez hop, on enchaîne.
La vie privée, laisse tomber. Ouais, okay. Donné,
j'en peux plus d'entendre parler de Anaïs.
Elle n'a plus rien. Si elle est déjà
non, encore. Parce que vraiment, elle remet en cause tout ce que.
Non, mais ça peut plus.
Ah, je trouve ça totalement intéressant.
Bon, bah là, on peut passer à autre chose.
Totalement de la.
Non, mais surtout que on rentre dans la vie privée, à un moment donné. Enfin, laissons-les tranquilles, en fait. Hein, c'est bon, à un moment donné. Surtout que je pense qu'ils ont d'autres trucs à régler, que voilà.
Parce que c'est le procureur qui avait tout détaillé. Hein.
Le procureur, moi je pense que le procureur
la même chose.
Voilà, mais je pense que le procureur a dit la vérité. Après, c'est l'histoire de famille qui reste entre elles.
Non, mais parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que Kenji ne m'a jamais fait du chantage au suicide. Que les choses soient claires, cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence, quelle qu'elle soit de sa part. Je suis catégorique. D'ailleurs, elle dit que le procureur en a trop dit sur leur vie.
Non, mais elle n'est pas le seul à le dire. Tout le monde était surpris de voir comment le procureur était rentrer dans les détails de leur vie privée.
Là, c'est elle qui parle, c'est pas nous, pardon.
Il nettoyait son âme comme Berigo, c'est vrai que c'est pas facile.
Bon. OK.
On enchaîne.
Les GG, ça y est, le compte est bon pour France Télévisions. Des chiffres et des lettres, c'est terminé. Le jeu télévisé diffusé depuis 1965 s'arrêtera à la rentrée. Alors, est-ce qu'on s'en fout pas, Bruno ?
Ah non, on s'en fout pas du tout.
Charles, tu t'en fous ou pas ?
Non, on s'en fout pas.
Zora ?
Non, on s'en fout pas.
Bon, c'est le programme le plus ancien du PAF, hein, après le jour du Seigneur. Ouais, la programmation, le week-end des chiffres et des lettres n'a pas été couronnée de succès, explique le directeur des antennes et des programmes de France Télé. Écoutez l'émotion de Patrice Lafontaine, le présentateur historique et toujours producteur de l'émission.
Je suis un peu ému, je vous le dis franchement, parce que c'est un peu de peine. Il y aura peu d'émissions, à mon avis, qui feront encore 50 ans. Donc c'est une bonne chose de sortir par la grande porte comme ça.
Voilà, au micro de BFM TV, Patrice Lafont. Pourquoi tu ne t'en fous pas, mon cher Bruno ?
Alors déjà, c'est une raison familiale. Ma grand-mère regardait ça tout le temps et je regardais avec elle. Donc moi, je faisais les jeux. Moi, je faisais surtout les chiffres, hein, parce que là, j'étais à moitié à la rue à chaque fois. Et moi, je trouve ça dommage, je les regarde encore régulièrement. Je vais raconter ma vie. Mais non, que le week-end depuis un an ou deux. Mais moi, quand je fais mon vélo d'appartement, je fais une heure tous les jours, je mets ça. Et avant, c'était ça. Il y avait Slam. Bon, c'était pas ma cam, mais après, surtout, il y avait les questions pour un champion. Et moi, je trouve ça honteux que cette émission s'arrête, en fait.
Ouais, moi aussi.
Parce que ça marche plus.
Mais même, ouais, mais on s'en fout, mais ça fait. Mais
ils auraient pu faire des économies.
Mais même si tu fais.
Mais le week-end, c'est une.
Ouais, ouais, ouais. T'es là-dessus. Mais franchement, même si ça fait 5 spectateurs, mais 5 spectateurs toujours qui seront moins cons que les 60 millions d'autres.
Non, mais c'est vrai que
c'est du service public.
Oui, non, mais moi, je trouve dommage qu'ils aient pas investi, justement, soit un autre horaire, soit un peu plus de promos, etc. Parce que vraiment, honnêtement, c'est une émission intéressante et qui intéresse les petits et les grands. Parce que même les petits à 3-4 ans, et moi je vois bien, et je fais partie de la génération de Bruno, on joue en famille, on cuisine, on regarde en même temps. Vraiment, c'est un moment sympa, et je trouve absolument incroyable que des trucs qui fonctionnent, qui sont pédagogiques, qui sont intéressants et amusants, les suppriment au profit de.
On a mis une très jolie photo de Laurent Romeschko là, qu'on salue d'ailleurs.
Je crois que c'est un Playmobil au début.
Ouais. Non, mais en plus, il faut voir les choix qui sont faits. C'est-à-dire qu'on a peut-être gardé des trucs complètement crétins. Pour éliminer un truc intéressant. Et donc si le truc ça marche pas, et ben à la limite on trouve une stratégie pour que ça marche mieux, c'est tout.
Mais France Télé doit faire des économies par exemple.
Et ben on s'en fout, ils en foutent d'ailleurs.
C'est pas des économies, France Télé doit être privatisée.
Mais oui.
D'abord.
Donc les chiffres et lettres ne reviendront pas si
France Télévisions, c'est 5 milliards d'euros de budget annuel. payé par l'État et 10 000 salariés. Excusez-moi, France Télévisions doit être privatisée. Mais je m'interroge sur la programmation de ce groupe, en fait. Je ne comprends pas. Je pensais que si on payait ce truc avec nos impôts, c'est quand même pour mettre des émissions d'intérêt général.
Bah oui.
Et à la place de ça, on a quoi ? On a des espèces de talk-shows gloussants, des jeux stupides, des espèces de sitcoms débiles. Je ne comprends pas ce qui est mis dans ce groupe. Je pense que ça doit être une chaîne, des chaînes consacrées à l'histoire,
il y en a,
à l'éducation, à l'éducation civique, à la culture, qu'il faut des vrais objectifs d'intérêt général. Je ne comprends pas cette espèce d'entre-deux dans lequel navigue en permanence la télévision.
Mais justement, ils peuvent avoir cette marque.
C'est payé par nos impôts.
Soit le service public est
public.
Mais différent. Et dans ce cas-là, il ne devrait pas avoir de pub, d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est que c'est financé en partie par la pub. Donc, ils sont obligés de faire, effectivement, de la télé commerciale. Mais alors, regarde Arte. Arte, c'est du service public. T'as des émissions, des documentaires, des séries que t'aurais pas sur le service public. Sur France 2, t'as des émissions qui sont interchangeables. Les jeux de Nagui pourraient être sur TF1. Enfin, il n'y a pas, c'est là où tu te dis pourquoi tu payes une redevance. Bah, maintenant, on paye
plus
redevance.
Mais c'est
directement l'impôt.
S'ils invoquent la raison budgétaire de la suppression des chiffres et des lettres, et pourquoi ce choix?
Pourquoi aller tous au festival de Cannes?
Oui. Je savais que t'allais
Il y a des grosses restrictions de budget. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de budget qu'on va tous à Cannes pour le festival, parce qu'ils veulent tous monter les marches, rencontrer des stars. C'est un truc qui doit être repris en main. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il faut une chaîne publique. Ça suffit largement qu'ils soient en même temps la chaîne internationale. On garde France 24, on en fait un truc d'histoire, de culture, et tout le reste, on attribue les fréquences. À la limite, on fait payer les groupes privés qui veulent les fréquences. On leur fait payer une petite. Et même une importante redevance, mais je pense qu'on a des économies sérieuses à faire.
Moi, j'appelle le nouveau patron de BFM et d'RMC, là, Rodolphe Sadé, de racheter les droits des chiffres et lettres et de les mettre à l'antenne. À un moment donné, tu les mets à l'antenne.
Pas à la place des grandes gueules. Hein.
Pas à la place des grandes gueules. Ou alors, en tout cas, ça
rendrait. À la place du Moscato, au moins, on apprendrait quelque chose, parce que quand t'écoutes le Moscato Show, les chiffres et les lettres, c'est pas trop
lent. C'est
leur truc quand t'es sur les temps des matchs, là, les chiffres, ils connaissent 90 minutes ou 80 minutes, ils savent.
Les trois points.
Après, les lettres, là.
Ah, vas-y, t'apprendrais des nouveaux mots. Avec Vincent Éric Dimeco.
Oui, c'est ça,
les chiffres et des onomatopées.
Ça serait pas mal pour eux, ça leur ferait du bien. Mais c'est vrai que quand tu parles des chiffres et des lettres, on a tous des souvenirs de chiffres et lettres en famille. Bah, on se souvient, nous, on a la génération qui a commencé à l'époque.
Mon arrière-grand-mère, elle regardait Question pour un champion.
Max Favalelli.
Oui,
tous les soirs. C'était lui qui faisait les corrections, Max Favalelli. C'est dingue. Et puis tu faisais les matchs. Et quand toi, le gamin, de temps en temps, tu trouvais un meilleur mot que le père, la mère, ou le grand-père, ou la grand-mère, c'était le triomphe. Quasiment, t'étais porté au nu. Il est bon. Il sera bon dans la vie s'il a trouvé un mot au chiffre.
Regardez le résultat.
Merci Anaïs.